France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Monique Pinson-Charlot, sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et spécialiste des familles les plus riches.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Les Pinson-Charlot appartiennent à l'espèce des sociologues. Leur excise corporelle étonnante les rend capables de s'adapter à un habitat peu usuel pour leur espèce. Les Pinson-Charlot nichent habituellement dans les quartiers huppés de nos contrées, attirés par tout ce qui brille. Ils apprécient notamment les terrains de golf ou de chasse, les clubs privés, les garden parties. Volontiers grégaires, ils sont aussi de grands migrateurs. À la belle saison, ils s'envolent vers la Suisse, le Luxembourg ou d'autres paradis fiscaux. Les Pinson-Charlot vivent et chassent en couple, omnivores, ils picorent avec prédilection les toasts et les petits fours. Leur plumage commun peut se faire précieux et argenté lors de leur parade sociologique. Avec l'âge, leur ramage s'amplifie et déplaît souvent aux oreilles oligarchiques. Bonjour Monique Pinson-Charlot, bonjour. Ça vous fait toujours rire ça.
Je suis ravie que vous ayez cité c'est la légende d'un dessin d'Étienne Lecroart, franchement c'est super.
C'est une fiche d'identification qui avait servi à l'exposition Bienvenue chez les riches en 2019. Elle parle de vous et de votre mari Michel, vous qui avez composé ensemble un drôle de couple d'oiseaux spécialisé dans l'étude des grandes fortunes françaises. Comment justement en arrive-t-on à travailler sur les beaux quartiers lorsque l'on se revendique de la gauche marxiste? C'est ce que nous allons voir avec vous dans un instant, vous qui publiez un nouveau livre, Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique, c'est aux éditions textuelles, dans lequel vous décrivez une oligarchie prédatrice qui se met soigneusement à l'abri du désastre tout en continuant à brûler du carbone en toute liberté. Monique Pinson-Charlot, votre histoire, elle commence le 15 mai 1946 à Saint-Étienne et en guise de mise en bouche, voici le petit journal de votre naissance préparé par Valérie Ayestaraï et Vincent Samuel Delina.
Le chef du gouvernement, ce matin du grand anniversaire, est venu apporter l'hommage de la patrie avant de se rendre à l'étoile où, devant l'inconnu, la France commémore pour la première fois la victoire. Le général de Gaulle, lui, était en Vendée. Il venait au rendez-vous solennel qu'il avait pris avec un mort. Entre Clémenceau et de Gaulle, unis par la solitude, unis par la victoire, quelles paroles silencieuses ont été échangées ?
À Moscou, à la suite des récentes élections, s'est ouverte en présence du maréchal Staline la première session du Soviet suprême. Dans la prison d'Alcatraz, isolée sur son récif dans la baie de San Francisco, une mutinerie a éclaté. Les trois meneurs de la mutinerie, trois gangsters endurcis, ont payé de leur vie cette tentative désespérée.
La Coupe Davis fait sa rentrée au stade Roland-Garros. Notre joueur numéro 1, Yvon Petra, de face rencontre l'anglais McFaul. Et Petra gagne facilement par 6-0, 6-2, 6-1.
Voilà, 15 mai 1946. Bah, il s'en est passé des choses, hein, le jour de votre naissance, Monique Pinson-Charlot. Réaction à ce petit journal?
Ah ben, je trouve que ça m'enrichit par rapport à mon passé, à ce qui se passait au moment où je suis née, puisque je suis née dans une chambre rose à Saint-Étienne, chez mes grands-parents maternels. Par accident, maman venait leur dire au revoir avant l'accouchement à Mende. Et du coup, je pense que cette naissance comme ça, un peu impromptue, chez mes grands-parents, dans un très bel appartement à Saint-Étienne, ça m'a apporté bonheur.
Bon, dans le journal, on entendait parler de De Gaulle.
Oui.
Il y a un petit lien aussi avec la famille.
Oui, un petit lien aussi avec la famille, dans la mesure où, d'une part, alors j'ai serré la main au général de Gaulle.
Pardon.
Je vous prie de me faire la révérence, parce que là, je l'ai fait.
Vous avez tout mon respect.
Et oui. je suis arrivée, parce qu'il était de passage à Mende, et moi j'étais...
En Lozère.
En Lozère, pardon. Et du coup, je m'étais dit, ça c'est pas possible, je veux absolument être au premier rang. Donc, comme je suis petite, je me suis faufilée, je suis arrivée à être au premier rang, et il était très grand, et il savait pas du tout que j'étais la fille du procureur, mais j'ai tendu ma petite main, il m'a serré la la main et j'étais fière comme un retaban.
Ben, j'imagine, oui. Et votre père, il a été nommé aussi grâce à De Gaulle, non ?
Oui, c'est ça. Alors, ouais. Donc, après, il y a la nomination de mon père donc, en janvier 1963, où il a été nommé donc, par le président de la République, le général De Gaulle, avocat général à la Cour de Sûreté de l'État à Paris. Mais pour être avocat général à la Cour de Sûreté de l'État à Paris, il fallait qu'il soit nommé procureur de la République, qu'il quitte Mende pour aller à Lille. Et c'est comme ça que j'ai quitté ma Lozère natale pour découvrir le nord de la France.
La ville, même, on peut le dire. Hein.
Oui, la ville.
Puisque vous êtes arrivé à Lille, on va y revenir dans un instant. Vous avez entendu aussi, à la fin de ce petit journal, Roland-Garros, on termine sur le 16e arrondissement.
Eh oui.
C'est pas mal. Hein.
Eh oui, c'est bien. Puis alors, en plus, moi, mes espaces de liberté à Mende concernait beaucoup le tennis.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai toujours été une fille assez forte au tennis. J'avais notamment un revers, mais alors qui était d'une violence et d'une efficacité extraordinaire.
Vous auriez pu devenir une grande championne alors, non ?
Oui, mais j'aimais pas la concurrence, j'aimais pas compter. J'aimais jouer, mais on comptait jamais avec moi.
Ah oui, d'accord. Donc c'était juste pour le plaisir du jeu,
voilà, hein,
pour la beauté de l'art. Ouais. Et Roland-Garros, qui quand même symbolise géographiquement et socialement cette élite qui a été votre sujet d'étude. Absolument. Même si vous n'employez pas le mot élite d'ailleurs, hein, c'est pas
non,
celui
jamais.
Que vous préférez.
Je préfère classe dominante, je préfère les capitalistes, je préfère oligarchie.
Ouais.
Et je pourrais expliquer au cours de cette émission pourquoi. Mais élite, c'est pour moi, c'est trop flatteur. Enfin, c'est pas comme ça que pas comme ça que ça correspond.
Ah, c'est trop flatteur pour vous ?
Non, attendez, je me reprends. C'est parce que avec Michel, on a mis en œuvre pour analyser cette classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs, à la fois le système théorique de Marx sur l'exploitation de classe. Hein, et la théorie de la domination de Bourdieu, qui est articulée, ça permet de comprendre comment est-ce possible que les dominés acceptent cette exploitation, parce qu'elle est construite, y compris jusqu'avec des manipulations, disons, idéologiques dans les cerveaux.
Donc ces deux influences intellectuelles vous ont emmené sur ce chemin-là hein, que vous nous décrivez autour
oui,
de la grande bourgeoisie
française. Oui, alors ces deux influences intellectuelles, elles ne faisaient pas partie du tout de la culture de mes chers grands-parents.
Oui.
Auquel j'ai rendu hommage en début de cette émission.
Justement, votre milieu social, Monique Pinson-Charlot, c'est quoi ? Votre père procureur de la République ? On est quoi, dans la bourgeoisie de province ou...
Oui, c'est ça. Alors, mes grands-parents maternels étaient des industriels dans le ruban de la soie à Saint-Étienne, avec une petite entreprise qui leur permettait, par exemple, de racheter une école non loin de là, à la campagne, pour héberger leurs 35 petits-enfants. Le bonheur de ma vie.
Ouais.
Une grande famille, comme dans les grandes familles. Et puis, alors qu'est-ce que c'était votre question ?
Ben, c'était leur milieu social, quoi.
Alors, oui, c'est ça.
Petite
alors, donc,
bourgeoisie.
Voilà. Du côté paternel, mon grand-père était médecin, un médecin de renom qui soignait beaucoup les familles de l'aristocratie du côté de Boin-sur-Lignon, Roche-Taillé, enfin, etc. Et voilà, donc c'était la bonne petite bourgeoisie de province, voilà.
Ouais, mais milieu de famille riche ou pas, justement ?
Ben non, parce que comme il y avait beaucoup d'enfants, c'était après, à la fin de la guerre, vous voyez, c'était la famille Charlot, il y avait 4 enfants, on était les moins nombreux. Les autres familles, c'était 7, 8...
Enfin, vous décrivez un grand appartement, justement, chez vos grands-parents à Saint-Étienne, donc tout allait bien, finalement.
Oui, tout allait bien, l'entreprise était juste en dessous. Et voilà, et quand il y a eu le Front Populaire, je sais que mon grand-père me racontait qu'il collait son oreille sur le plancher pour entendre les ouvrières dire « Oh, salaud, on aura ta peau !» Enfin, des trucs comme ça, il me le racontait comme ça.
Et alors, pas du tout marxiste, vos grands-parents ?
Ah non, du tout. Non, c'était même la droite extrême, en fait.
Ouais. Et ça, vous en gardez quel souvenir ?
Ben, c'est-à-dire que c'est paradoxal, la vie est faite comme ça. C'était des personnes sur le plan humain absolument extraordinaires. Et je les ai vraiment beaucoup, beaucoup aimées, malgré le fait que plus tard, je me suis rendu compte qu'on était très loin dans la façon de penser le vivre en société.
Lille, donc, en 1963, vous avez 17 ans, c'est ça, quand vous arrivez à Lille. Alors, pareil, vous arrivez de la Lozère, dans une grande ville, quand même. Quels souvenirs vous gardez de votre première rentrée scolaire, à ce moment-là ?
Alors, d'abord, donc, il faut comprendre que je suis quelqu'un qui n'est pas bien construite. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que je n'avais pas accès à la réflexion, Amande. Tous mes amis étaient le fils du préfet, c'était que des amis fonctionnaires, et il n'y avait qu'une seule et unique personne dont je parle, c'est le psychiatre François Toscaïès, qui venait de temps en temps déjeuner à la maison pour rencontrer le procureur de la République. Lui, il était directeur d'un énorme hôpital psychiatrique à Saint-Alban, avec 1000 patients, et il a été recruté parce qu'il arrivait à faire ce qu'on appelle de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire il est arrivé à faire en sorte que les fous ne soient plus considérés comme des fous, mais comme des personnes humaines à part entière, capables de faire des œuvres d'art, capables de cultiver des potagers, et capables d'aider les habitants à manger à leur faim.
Donc tout le monde s'entraidait, travaillait ensemble en fait, c'était voilà, l'esprit de cet hôpital.
C'est exactement ça. Et donc inconsciemment, je devais me dire... ouais, parce que mon père était quand même, c'était le patriarcat, il n'y avait que lui qui avait le droit de parler à table, et donc comme il était très friand de sa personne, alors il nous racontait tout le temps comment il était arrivé, pourquoi Toscaïès venait, enfin, etc.
Il faisait la discussion tout seul, finalement.
Tout seul, ah oui, oui. Il était vraiment, ça le ravissait. Et puis nous, on écoutait, alors ça a eu des effets tout à fait différents en fonction des quatre enfants, mais je dirais que moi, finalement, rétrospectivement, comment je reconstruis ma vie, je me rends compte que j'ai intériorisé tout ça. Je me suis dit, dans la famille, il n'y a que lui qui réussit. Il a appris le droit par cœur. Moi, je vais tout apprendre par cœur. Du coup, j'étais assez souvent première de classe. Mmh. Et c'est en arrivant à Lille que là, tout s'est écroulé. J'arrive en classe de philo. Première note pour Monique Charlot, 4 sur 20.
Pourquoi le par cœur, ça ne marchait plus en philo? C'est une catastrophe.
C'était la cata. Non, ouais. Non, là, voilà. Et donc.
Et vous dites, hein, j'arrive donc le jour de la rentrée des classes avec un accent à couper au couteau qui se fait retourner toute la classe.
Oui, présente.
Ouais.
Et là, ben, je comprends. Je comprends que ça va pas être facile pour moi. Et puis, ce que je peux dire, c'est que si vous voulez, je n'arrivais pas. Pour moi, tout ce qui m'était arrivé dans la vie, ça ne pouvait pas être transformé. C'était naturel. Là, je n'avais pas la notion du social, de la construction sociale. Mmh. Et c'est pour ça que je suis une sociologue particulièrement heureuse. Parce que c'est quand même ça le boulot de la sociologie. Hein. C'est la déconstruction et de dévoiler les secrets. Tout ce qui est caché. Hein. Et donc, quand j'arrive avec cette prof de philo qui a 22 ans, moi j'en ai 17, et qui nous parle de Sartre, qui nous parle de l'existentialisme, de Marx, du marxisme...
Ça réveille des choses en vous, tout ça ?
Mais non, rien du tout.
Rien du tout,
mais
même
je
pas.
Ne savais même pas ce que ça voulait dire.
Ouais. Mais le fait d'en entendre parler, ça a dû quand même un petit peu...
Ah ben, tout de suite, je me suis dit, c'est des mots que j'ai jamais entendus.
Ouais. Donc déjà, il se passe quelque chose, quand même.
Oui, ah oui, c'était extraordinaire.
Ouais. Et la rencontre avec Michel, alors, ça se passe comment, celui qui a été vraiment votre double, hein,
oui.
À la fois votre mari et aussi votre double de sociologie.
Voilà. Alors donc, avant de le rencontrer, donc, je fais ma classe de philo, je fais propédeutique. Et puis
propédeutique, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah ben, propédeutique, c'est la première année en fac. Si on l'échoue, on n'a pas de place à la fac. Mm-hmm. Et si on le réussit, on avait 4 fois pour le réussir.
Ah oui, quand même.
Mais je l'ai réussi du premier coup. Mmh. On rentre à la fac, tout simplement. Donc après, j'ai fait ma première année de sociologie, et c'est là où j'ai rencontré Michel. Et là, j'étais prête, en quelque sorte, à comprendre ce jeune homme qui était grand, qui était beau, qui était lunaire, qui avait l'air tout calme, et qui était très érudit, qui lisait beaucoup, qui m'a initiée au cinéma, à la lecture, à la réflexion. Et moi, alors pour moi, je suis tombée folle amoureuse de lui. Heureusement que ça a été réciproque, parce que quand même, j'étais quand même plutôt genre boulet pour lui. Mais enfin, bon, ça s'est quand même passé comme
donc
ça.
Donc c'était pas coup de foudre à Notting Hill, c'était coup de foudre à la bibliothèque, en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ce qui s'est passé à Lille.
Oui, c'est ce qui s'est passé.
Ouais.
Oui. Ah oui, ça a été, Michel a dit, oh, ben, elles sont pas mal, les filles de la nouvelle promotion. Donc j'étais avec ma meilleure amie Inès. Ouais. Et puis après, ben, ça s'est...
Et il faisait de la sociologie, lui, déjà,
oui.
Donc, à ce moment-là ?
Alors lui, il avait déjà plusieurs années de sociologie, il avait 4 ans de plus que moi. Et surtout, il était étudiant de Bourdieu à Lille. Et ça, c'est très très important dans notre histoire sociologique, parce que grâce à Michel, on a pu être proches. Michel a même été invité par Bourdieu à passer 15 jours avec avec lui à Paris l'été, un été, pour travailler avec lui, faire des fiches de lecture, enfin, ouais, etc. Et du coup, Michel m'a initiée. J'y comprenais rien, moi, à Bourdieu. Et donc, m'a initiée véritablement à la pensée théorique de Bourdieu. Et une fois que j'y ai eu accès, franchement, la bonne femme était heureuse.
Bon, il était avec son boulet préféré, donc c'est ça. Donc, pour apprendre tout de Bourdieu, on va écouter Jean-Claude Passeron et Pierre Bourdieu. D'ailleurs, c'était en 1966, puisque vous donniez la définition un peu de ce qu'est la sociologie, Monique Plasson-Charlot. On va voir ce qu'ils en pensent.
Ce en quoi la plupart des gens pensent que la sociologie n'est pas une science comme les autres, c'est finalement qu'ils la croient une science beaucoup plus facile que les autres, beaucoup plus immédiatement accessible.
Oui, et c'est cette illusion de la facilité qui nous paraît constituer la difficulté fondamentale d'être sociologue.
Alors ça, c'est intéressant, hein. C'est une discipline qui paraît facile,
oui.
Donc pas sérieuse, quoi, quelque part, non?
Oui, parce qu'on est tous plus ou moins sociologues, on est tous capables d'analyser, ouais, son milieu social, d'analyser les rapports de classe.
Est-ce que ça, vous le ressentez même au sein de la science, au sein des autres scientifiques, vous qui avez travaillé avec Michel au CNRS? Est-ce, oui, que c'est quelque chose qu'on ressent aussi quand on fait de la sociologie, de la part des autres disciplines, des sciences dures, par exemple? Est-ce que vous sentez qu'on pose un regard sur vous qui est un petit peu presque ironique?
Ah oui, oui, il y a une hiérarchie au sein du CNRS. Les sciences sociales, oui, c'est les sciences molles. Tandis que les sciences dures, c'est du costaud.
Oui.
Mais Pierre Bourdieu est arrivé à complètement renverser, enfin pas renverser, mais disons, il a vraiment donné des lettres de noblesse à la sociologie.
Pour qu'elle s'affirme vraiment.
Oui. Voilà, au point qu'il a même eu la médaille d'or du CNRS en 2002, si ma mémoire est vraiment bonne.
À quel moment vous vous dites avec Michel que la bourgeoisie va devenir votre sujet de recherche? C'est quoi le point de départ pour vous?
Je dirais d'abord que c'est nos rencontres, tout de suite, très vite. Michel, fils d'ouvrier très pauvre des Ardennes, très cultivé et dans la réflexion, et la fille de la petite bourgeoisie complètement, enfin pas débile, mais disons complètement pas formée, pas construite, mais qui a un appétit quand même de savoir. Tout de suite, on a compris qu'on était deux boiteux, mais pas de la même jambe, deux névroses de classe inversées, en quelque sorte, et qu'on allait pouvoir faire quelque chose d'important. Et donc, Michel, lui, il avait vraiment envie de travailler sur les rapports de domination, et puis, il m'en a donné le goût et l'envie.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Vous avez un rapport à la culture dans les milieux aisés qui est grandement facilité par les ressources dont on dispose, et en particulier, si on prend on revient au rallye par exemple, lorsque vous avez des enfants qui visitent un musée guidé par le conservateur, qui visitent en groupe ce musée, ils apprennent en même temps à apprécier les œuvres qui sont dans ce musée et en même temps à vivre ce rapport à la culture dans leur milieu social, en groupe, et la culture devient une affaire collective.
La voix de Michel Pinson, c'est un document de l'INA dans le cercle de minuit. C'était Monique Pinson-Charlot en 1996, donc sur France 2 avec Laure Adler. Votre mari, donc Michel Pinson, qui est décédé en 2022, vous qui êtes sociologue, spécialiste des grandes fortunes. Est-ce qu'il faut faire bien la différence d'ailleurs entre les riches et la grande bourgeoisie? On parle pas tout à fait de la même chose?
Non, c'est-à-dire, enfin, c'est à la fois la même chose et pas la même chose. C'est-à-dire
qu'on peut être très riche sans faire partie de la grande bourgeoisie.
Oui, on peut absolument. Mais on peut pas rester. On peut pas. Si vous voulez, il faut que les nouveaux riches, s'ils se vivent comme des usufruitiers de ce qu'ils ont construit et non pas des propriétaires, et qu'ils vont le transférer à la génération suivante, comme l'ont fait Bernard Arnault, Dassault, François Pinault, etc., pour donner des exemples que tout le monde connaît, là, ils vont être cooptés par les membres des dynasties plus anciennes, voilà, de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Mais d'une façon générale, les gens sur lesquels nous avons travaillé sont massivement des héritiers, qui ont des quartiers de noblesse et des quartiers de bourgeoisie, quelquefois sur plusieurs siècles.
Oui.
Donc, dans le passé historique, et ils se projettent donc dans l'avenir avec le fait qu'ils sont des usufruitiers qu'ils doivent transmettre, afin que jamais les richesses ni les pouvoirs ne ruissellent. Et donc aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est curieux, parce que du coup, l'avenir est amputé avec le dérèglement climatique. Mais pour les plus riches, ça s'intègre parfaitement dans ce que je suis en train de vous décrire. C'est-à-dire, ils sont dans une espèce d'immortalité symbolique où, si vous voulez, la continuité dynastique prend le pas sur la finitude humaine.
C'est-à-dire qu'on perpétue toujours les mêmes choses, au prix, évidemment, de conséquences très graves, très lourdes, hein, oui. pour la oui. planète, par exemple. Oui. On en parlera dans un instant, oui. puisque c'est l'objet de votre nouveau livre. Donc la cooptation, la transmission, l'accumulation des richesses, tout ça, ce sont des mécanismes que vous avez distingués et qui caractérisent cette grande bourgeoisie française.
Oui, parce qu'on a, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la grande bourgeoisie française, mais franchement, dans tous les pays occidentaux, en tout cas, c'est toujours le même type de fonctionnement, puisque c'est le même système, hein, c'est le système capitaliste. Quand vous êtes propriétaire, détenteur, disons, de titres de propriété, qu'il s'agisse des moyens de production et d'échange, mais aujourd'hui qu'il s'agisse même de médias, qu'il s'agisse du secteur de la santé, même de l'enseignement, oui. hein, aujourd'hui tout est financiarisé, donc les titres de propriété s'étendent même au climat. Et donc, ben là, si vous voulez, c'est pareil de partout. Alors, et c'est pareil de partout. On le sent aujourd'hui avec la gravité de la tension géopolitique à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que les titres de propriété s'étendant à toutes les formes, à tous les communs, à tous les secteurs de l'activité économique et sociale, excusez-moi, eh bien, il va falloir aller prendre, chercher des métaux rares dans des pays pour faire la transition énergétique. Et du coup, il y a un resserrement des liens entre les oligarchies à l'échelle de la planète pour préserver l'avenir du système capitaliste.
C'est ça, puisqu'au fond, c'est toujours le même système qui s'entretient de lui-même. Hein, et l'extractivisme, par exemple, en est une illustration.
Voilà, hein. Et l'extractivisme fossile, et aujourd'hui, extractivisme fossile plus capitalisme vert.
Monique Pinson-Charlot, Michel en parlait dans l'extrait, il évoquait les rallyes justement, et vous dites que, évidemment, la grande bourgeoisie, c'est aussi cet entre-soi qui est absolument capital pour cette classe sociale. On va écouter l'extrait d'une archive également de l'INA autour des rallyes.
Vous-même, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser un rallye ?
Le fait que mes filles sortent dans des groupes dont je connaisse certains parents, et que je sache un petit peu où elles vont le samedi ou le vendredi. Je rencontre et les mères de jeunes filles et les mères de garçons avant de les inscrire au rallye obligatoirement. Bon, et si nous avons un petit fit ou si nous sympathisons et si nous avons les mêmes idées, nous décidons qu'ils entrent ou qu'ils fassent partie du groupe.
Voilà, on sent bien l'entre-soi, là, justement, dans ce témoignage qui est extrait d'un reportage d'Antenne 2 en 1984.
Hein. Oui, c'est excellent.
Ces rallyes, ils existent toujours aujourd'hui ?
Ah, ben plus que jamais. Hmm. Plus que jamais, puisque si vous voulez, l'intérêt des rallyes, c'est d'éviter absolument, au final, la mésalliance, c'est-à-dire les enfants, les jeunes apprennent l'amour de l'entre-soi, l'amour de son semblable, et apprennent en même temps à reconnaître le dissemblable, et donc à éviter la mésalliance. Autrefois, c'était une tante qui organisait le mariage dans les grandes familles, mais là, c'était plus possible. Donc, maintenant, c'est trop fort, parce que finalement, quand ils se marient, quand ils racontent, oh mais c'était par le plus grand des hasards, j'étais invité à un cocktail à l'ambassade de Grande-Bretagne et Charles-Henri était là. Moi j'y suis allé vraiment par le plus grand des hasards avec mes parents, c'est pas du tout prêt. Charles-Henri était là, ouais. Lui pareil, et donc on s'est retrouvés par le plus grand des hasards et c'est un amour fou qui nous unit depuis tant d'années.
C'est ça, c'était à l'ambassade évidemment et pas au carrefour du 93 par exemple, voilà. Hein, évidemment. Voilà. Vous parlez du séparatisme des riches. Hein.
Oui.
En fait, c'est ça. Ça exprime aussi cette idée-là, au fond.
C'est ça. Au fond, les mots à travers nos livres ont changé. Au début, on parlait de ségrégation sociale, d'agrégation des semblables. Puis, ensuite, je ne me souviens plus tous les mots qu'on a pu employer. Et le séparatisme des riches nous est venu lorsque Emmanuel Macron a parlé du séparatisme islamiste. Mmh. Et dans son texte, il suffisait de transformer islamiste mise par des riches, ça marchait impeccablement, communautarisme de naissance, enfin, etc.
Monique Passon-Charlot, quand on travaille sur un sujet comme celui-là en sociologie, donc la grande bourgeoisie, il faut évidemment aller sur le terrain. Donc votre terrain à vous, bah, ce sont justement les garden parties, les cocktails, les grandes soirées, les rallyes. Lorsque vous débarquez à Neuilly ou à Auteuil en tant que sociologue avec Michel, il faut revêtir vous aussi les codes de la bourgeoisie ou justement en tant que sociologue, vous maintenez une distance et vous refusez au fond. Est-ce que vous aviez par exemple une armoire avec des vêtements pour aller à vos soirées étudier votre sujet ?
Oui, ça oui, mais on le faisait aussi quand on travaillait sur des ouvriers, par exemple, sur des catégories populaires. On était attentif à la façon dont on s'habillait par respect. Et là, bien sûr que nous l'avons fait. Alors Michel, par exemple, on lui a acheté un seul, ça lui a fait toute sa carrière de sociologue, un joli costume croisé, qui était très, il était grand et beau gosse, donc ça lui allait très bien. Oui. Et puis moi, je mettais des petits tailleurs avec des talons en haut, voilà, pour manifester simplement le respect de nos interviewés. Mais si oui. vous voulez, nous gardions l'un comme l'autre notre personnalité, nos valeurs. Nous ne sommes jamais avancés cachés.
Ouais, mais vous étiez connus comme les loups blancs, finalement. Les Pinson-Charlot, on les connaissait comme étant les sociologues qui oui. venaient étudier comme on va au zoo un peu des drôles d'animaux, non ?
Mais non, parce qu'en fait, ils étaient franchement intéressés par notre travail. Et d'abord, nous, dès le départ, on s'est impliqués. Par exemple, on avait fait tout un travail sur l'évolution des adresses des membres du Jockey Club, depuis la création du Jockey Club en 1839 jusqu'en 1987, où on a fait ce travail. Puis on trouvait que c'était drôlement intéressant, avec une évolution qui allait de plus en plus vers l'ouest, qui se rapprochait du Bois de Boulogne. Et du coup, on en a parlé au Jockey Club pour leur dire, nous on pourrait vous proposer, si vous voulez, vous avez un journal, on pourrait vous proposer un article, ça intéresserait vos membres. Et puis là, on nous appelle, on nous dit, oui, votre idée est bonne, l'article est bon, mais c'est pas possible qu'il y ait vos noms, vous ne pouvez pas signer.
Oui, et donc, on quand a même. Dit, voilà. Donc ça dit quelque chose.
Oui, ça dit beaucoup. Ouais. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, c'est vous. Monsieur, c'était le comte que François-Xavier de Vivy-de-Régis, je me souviens de son nom. Vous faites l'article en vous inspirant de notre travail, puis vous dites que c'est... Ouais. C'est une inspiration de notre travail.
Donc ça dit que vous êtes connu de ce milieu-là, évidemment, oui. vous êtes accepté, mais pas tellement. Enfin, il reste quand même une distance sociale entre vous et...
Mais ça ne peut pas être autrement. Mais si vous voulez, je pense que le fait d'être deux nous a donné cette force et peut-être parfois cette impertinence de toujours vouloir aller plus loin dans la connaissance de cette classe.
Et quand même aussi en filigrane dans la critique. Parce que c'est aussi une critique de ce milieu que vous faites.
Oui, c'est une critique parce que c'est notre projet, c'est bien de comprendre et de dévoiler et de donner à voir les mécanismes de l'exploitation et de la domination de classe.
Mais cette bourgeoisie, elle l'accepte cette critique ou pas ? Et est-ce qu'elle va jusqu'à, dans certains cas, l'autocritique justement ?
Alors, donc, ça a été accepté. Donc, je réponds en répondant sur notre trajectoire. Parce que ça a été accepté comme ça très bien jusqu'en 2007, année où nous partons tous les deux à la retraite. Nous sommes restés 37 ans, ce qui est très rare dans le même laboratoire.
Donc au CNRS.
On est rentré le 8 septembre 1970 et on est parti le 31 août 2007. Donc un seul pot d'arrivée, un seul pot de retraite.
Oui, très bien.
Et ils avaient les deux pinsons pour le prix. Et c'est très rare, parce que les gens changent souvent de laboratoire. Nous, on voulait la paix, donc voilà. Et donc, je raconte tout ça pour dire que c'est à partir du moment où on a été à la retraite que nous avons intégré dans le champ global de l'analyse de la classe dominante, les champs économiques et politiques. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette grande bourgeoisie n'avait pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique par des chercheurs du CNRS.
Ça se faisait pas, ça n'existait pas.
Non, c'était pas interdit dans des textes, mais ça ne se faisait pas. Et par ailleurs, ça ne se faisait pas aussi, parce que si vous voulez, il y a un découpage institutionnel au CNRS. Quand vous êtes sociologue, vous relevez d'une commission spécifique. Si vous êtes ethnologue, c'en est une autre. autres. Tandis que là, si vous travaillez sur la classe, forcément, vous embrassez l'ensemble.
Et donc, 2007, vous êtes à la retraite. Enfin, vous vous mettez à la retraite en même temps que Michel, pour être tout à fait exact. Oui. Et là, ça opère comment chez vous, alors ?
Ah ben là, on se dit, ben voilà, on avait senti qu'on ne pouvait pas intégrer dans nos analyses le champ économique et le champ politique. Et donc, comme c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République...
Là, vous y allez à fond les ballons.
Eh bien, on y va. Tout de suite, on a accès. Ariane Chemin avait pu avoir la liste des invités, par exemple, du Fouquet's, qu'on récupère. Et puis, on se met simplement à analyser qui sont les invités du Fouquet's. Et puis, voilà, on a vu que c'était hop. Et puis, on s'est mis à travailler. Et ça a donné le président des riches, qui a eu un succès considérable.
Donc, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, tout ça.
Ah oui.
C'est vrai.
Tout à fait.
Vous avez fait 150 000 exemplaires avec le président des riches, une expression qui lui a collé à la peau, d'ailleurs.
Hein. Ah oui, jusqu'au bout. Un sparadrap qui lui a collé jusqu'au bout. Et il a essayé de s'en dégager comme le capitaine Haddock. Et puis qu'on a reproduit avec le président des ultra-riches pour Emmanuel Macron.
Ah oui, il a ultra en plus.
Oui, c'est ça.
On va écouter Emmanuel Macron dans un petit florilège des meilleures répliques préparées par Valérie Ayestaraï.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il ne faut pas refaire un discours de congrès, mais hein, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est narratif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil.
Mais
c'est
vous voulez travailler dans quel secteur ? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas.
Dans l'hôtellerie, le café, la restauration ? Dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Monique Pinson-Charlot, vous dites que Macron est monté d'un cran dans la violence de classe.
Oui, mais là, rien que ce qu'on vient d'entendre, c'est un processus quand même de mépris et de déshumanisation des plus pauvres. Et quand, justement, en 2005, le milliardaire américain Warren Buffett a déclaré sur CNN « On est désormais dans une guerre de classe, et c'est nous les riches qui la menons, et c'est nous qui sommes en train de la gagner. » Et vous voyez qu'en quelques années plus tard, Emmanuel Macron est capable de tenir ce type de discours à l'égard des gens qui sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'il y a des inégalités. C'est même pas des inégalités, c'est des fossés qui séparent la masse des classes moyennes et des classes populaires de cette petite oligarchie qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs.
Monique Pinson-Charlot, vous êtes devenue riche vous-même en vendant autant de livres. Quel rapport vous entretenez avec l'argent ?
Alors écoutez, on a avec Michel...
Quand même, 150 000 exemplaires par-ci, 100 000 exemplaires par-là, ça fait des droits d'auteur quand même.
Ah oui,
ça.
Oui, non, mais
ça fait de la richesse.
Je peux répondre à cette question sans problème, parce qu'avec Michel, on a dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors Michel, il a dit, d'abord, on va refaire le toit de la maison et on va protéger notre maison pour qu'on ait bien chaud, enfin faire des travaux qu'on pouvait pas se payer avec nos retraites. Donc on a fait ça, et puis après le reste, on a toujours... C'était une enveloppe à laquelle nous ne touchions pas, qui était une enveloppe de partage. Et c'est comme ça qu'on a emmené, par exemple, nos deux petits-neveux à parcourir le monde au moins 10 fois.
Bravo, l'empreinte carbone hein.
Ah ben c'était à l'époque où...
C'était avant d'écrire ce livre, alors.
Oui, c'est ça. Ils sont remerciés, d'ailleurs, mes petits. Le livre leur est dédié, ainsi qu'à mon fils et mon petit-fils. Et du coup, vous m'avez perturbé. Et voilà, le partage, de pouvoir payer le restaurant chaque fois que c'était possible. Enfin,
vous n'avez pas acheté une grosse voiture, de gros bijoux très chers.
Non,
et un nouveau manteau pour Michel.
On a une kangourou rouge. Ouais. Et vous voyez, France Culture, une fois, a ouvert son journal en disant « Méfiez-vous des petits vieux en kangourou rouge. »
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
La chanteuse Katy Perry ainsi que 5 autres femmes ont effectué un vol spatial ce 14 avril. Elles ont décollé du Texas à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Après avoir atteint 100 km d'altitude, les 5 astronautes amatrices ont regagné la Terre. Durée du trajet, 11 minutes. Selon l'économiste Lucas Chancel, le bilan carbone de la chanteuse pourrait au final atteindre 429 tonnes de CO2, ce qu'émet un Français en 43 ans.
Voilà une vidéo du Lest républicain, c'était lundi dernier. 5 femmes dans l'espace, Katy Perry parmi elles, Monique Pinson-Charlot, vous qui êtes sociologue des grandes fortunes françaises. Là, c'est le nec plus ultra de pouvoir s'offrir un billet très très cher pour aller dans l'espace aujourd'hui pour les riches.
Ben, c'est-à-dire que c'est dans la logique du séparatisme des riches dont on a parlé tout au long de cette émission. Et donc, c'est toujours sans fin. Alors là, vous donnez cet exemple de fusée, alors c'est extraordinaire. Mais moi, je termine le livre sur les jets privés, où c'est pareil, là, ils sont au-dessus des gens qui ne sont rien, et puis ils risquent pas de rencontrer des gens qui ne sont rien, justement, parce que même les gens qui les servent dans les jets privés, le personnel de service est en grande tenue, est au service, donc c'est luxe, calme et volupté, et en même temps, source de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre.
C'est ça. Ce qui nous emmène sur le thème de votre nouvel ouvrage, Les riches contre la planète, ce lien justement entre les oligarques et le réchauffement climatique, c'est la première fois que vous l'explorez, Monique Pinson-Charlot. Comment vous y êtes intéressée au fond ?
Alors, ben, c'est-à-dire
c'est
que...
une opportunité.
c'est une opportunité, oui, qui est un peu triste à dire. Donc Michel était malade, et puis moi je me suis dit, ben, tu vas être obligé de rester beaucoup à la maison, et puis qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et c'est là que je me suis dit, mais le dérèglement climatique, peut-être que tu auras du temps pour essayer de lire les livres qui paraissent, pour suivre la presse, pour éventuellement faire des petites enquêtes ici et là, et puis voir si tu pourrais un jour en faire un livre. Mais ça me paraissait un travail de titan, quoi, comme, je sais pas comment on dit, quand il y a un puits, le puits est sans fond.
Sans fond, ouais.
Voilà. Et donc c'est effectivement ce qui s'est passé, mais j'ai pris un plaisir fou. J'ai tapé sur le truc outil, et puis ça m'a donné plus d'un million de signes et espaces compris dans tout ce que j'avais récolté. Et puis, mais après, le problème, ça a été la construction,
oui,
pour en faire un livre. Et comme c'était très difficile, puisque finalement, l'oligarchie, vous avez bien compris que c'est une classe sociale aujourd'hui qui s'accapare donc tous les pouvoirs et toutes les richesses, y compris jusqu'au cœur de l'État, hein, puisque le président de la République lui-même arrive de la banque Rothschild. Donc un fait social total à lui seul au sens de Marcel Mauss, où il y a plein de choses qui sont en relation, hein, qui s'enchevêtrent, qui s'entrechoquent. Et puis juste en face, pareil, le dérèglement climatique, un autre fait social total. On ne peut pas être juste travailler sur l'eau, sur l'acidification des océans, sur les canicules, sur en Savoie, c'est peut-être la décongélation du pergélisol qui est à l'origine de cet accident, je n'en sais rien. Vous voyez ? Et donc... j'essayais de faire des plans, et puis ça marchait pas. Donc je me suis dit, ben, si tu veux faire un livre, il faut que tu changes complètement, ouais, que tu avoues que tu n'arrives pas à faire un plan, et tu vas construire.
C'est le premier ouvrage que vous faisiez sans Michel ?
Ah non. Non, j'ai fait toute seule Le Méprisant de la République, avec la réforme des retraites. Et puis ensuite, alors là, c'était pas toute seule, puisque j'étais avec un photographe, Gwen Dubourg-Toumieux, aux éditions Pyramide.
Donc là, vous avez fait des petites chroniques, au fond. Hein. C'est l'idée, oui, de ce patchwork pour parler à la fois des pesticides, de Total Energy, de la construction de la 69, pour comprendre, c'est le thème du livre, comment s'articulent les agissements concrets donc des membres de la classe sociale dominante sur ces exemples particuliers. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'anthropocène pour qualifier l'époque que nous vivons, avec l'influence des activités humaines sur la géologie même, hein, sur la chimie de notre planète. Il y a ce terme de capitalocène qui sied encore mieux finalement à cette élite que vous décrivez là.
Ben, c'est-à-dire que c'est le terme s'impose. Quand, par exemple, si je prends donc des statistiques à l'échelle de la planète qui viennent de World Inequality de 2023, eh bien, vous avez les 50% les plus pauvres de la planète qui émettent 1,6 tonne par an et par personne, ce qui représente 18% des émissions de gaz à effet de serre. Si je prends les 40% des classes moyennes, je suis à 6,6 tonnes qui émettent 40% des émissions. Et si je prends les 10% les plus riches, je suis à 31 tonnes par an et par personne et à 48%. des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous voulez, il y a bien une responsabilité des capitalistes, aussi bien dans leur mode de vie, mais pas seulement, parce que ça concerne aussi tous les investissements
financiers. Les activités et leurs activités.
Exactement.
Ouais. Donc, des riches de plus en plus riches, et donc de plus en plus émetteurs aussi, ça c'est tout à fait documenté scientifiquement, aux impacts environnementaux. Un mot sur la taxe Zucman, parce que le 20 février dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi instaurant justement une taxe avec un impôt minimum de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Ça, c'est un sujet très discuté aujourd'hui, hein, surtout à l'heure où on cherche des milliards d'euros pour combler le budget français. Mmh. Cette question de la taxation des riches, elle vous paraît centrale dans ces idées, dans ces échanges aujourd'hui qu'on a sur le sujet ?
Ah bah écoutez, vous me posez la question, vous êtes mignon, mais là, franchement, s'il y a des gens qui ont documenté, depuis notamment le président des riches, à travers les niches fiscales, le bouclier fiscal, tous les avantages qui étaient accordés aux plus riches pour qu'ils payent le moins d'impôts possible, ben c'est bien nous. Et puis ensuite, on a fait ce travail sur la fraude fiscale, un livre spécifique où on est parti travailler en Suisse et au Luxembourg. Et puis, le président des ultra-riches, on a vraiment dévoilé la construction par Emmanuel Macron d'un impôt spécial riche qui a supprimé la solidarité en supprimant l'ISF et qui a construit... il a supprimé la progressivité sur les revenus du capital, qui sont à 12,8%.
Donc il aurait fallu l'appeler la taxe Pinson-Charlot, alors, si je vous comprends bien.
Je n'en demande pas tant. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, moi je suis pour qu'ils payent leurs impôts. On a une constitution, on est dans un pays. Voilà, si les riches contribuent à la hauteur de leur fortune, au lieu de profiter des niches fiscales, au lieu de profiter de tas de façons de planquer leurs sous dans des paradis fiscaux, oui, qu'ils payent leurs impôts. Je ne suis pas en désaccord, pour autant, avec Thomas Piketty et Gabriel Zucman, parce que tout est bien. Chacun fait ses propositions, mais d'abord l'essentiel, en tout cas pour la démocratie, pour respecter l'état de droit, qu'ils payent leurs impôts. C'est d'ailleurs dans la déclaration des droits de l'homme.
Bon, c'est pas fait encore, hein. C'est-à-dire que c'est un projet pour l'instant,
oui,
un projet de loi.
C'est un projet que je salue, mais dont je dis, voilà, je rappelle qu'il faudrait avant qu'ils payent déjà leurs impôts.
La 69, on en parlait lundi d'ailleurs dans l'émission, c'est un des exemples que vous citez dans votre ouvrage, Les riches contre la planète, Monique Pinson-Charlot. Vous dites un bijou oligarchique, révélé d'ailleurs par la cellule d'investigation de Radio France, qui montre l'ampleur des moyens qui ont été mis en œuvre pour financer ces 53 kilomètres.
Oui, alors, donc c'est grâce à Benoît Colomba et la cellule d'investigation de Radio France, comme vous venez de le dire, que j'ai appris c'était un des grands amis d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Emmanuel Miquel, qui est un financier de haut vol, qui a été responsable des acquisitions fusions-acquisitions chez BNP Paribas, chez Morgan, qui est toujours dans la finance, et notamment qui a des intérêts dans la société concessionnaire de cette autoroute qui s'appelle Atosca. Donc ça c'était déjà intéressant. J'apprends aussi par Mediapart que ça n'est pas 24 millions d'euros, excusez-moi, mais entre les millions et les milliards, oui, je fais attention quand même à ne pas faire lourde, c'est millions. Des millions, 24 millions d'euros que l'État aurait prêté.
110.
Hein. C'est 110. Voilà, c'est 110.
A priori, ce serait 110. Bon.
Voilà, c'est ça. Ça serait 110. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de vraiment savoureux ? C'est d'apprendre aussi par Benoît Colomba que les laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre avaient des intérêts financiers aussi dans cette société concessionnaire.
Donc bref, tout ça, ça vous fait
Attendez, il faut que je finisse.
Un bon chapitre sur la 69. Oui. Bah oui, mais il nous reste une minute.
Ah oui, alors, donc je m'arrête. Mais enfin, sinon, vous, les lecteurs finiront de lire, parce que c'est quand même trop délicieux.
C'est ça, avec également des nouvelles de Patrick Pouyanné, hein, pour ceux qui apprécient Total Energy. Il y a de quoi faire aussi dans ce domaine-là.
Oui.
Monique Pinson-Charlot, les luttes, est-ce qu'elles pourront gagner la partie face à la puissance justement de l'oligarchie ? Vous qui parlez quand même de la défaite perpétuelle de celles et ceux qui contestent l'exploitation, justement, de la domination de classe. Est-ce que vous voyez une porte possible ou pas?
Je développe trois petits morceaux là-dessus, qui vont dans le sens de la solidarité. On doit faire comme dans la classe dominante. Chacun fait ce qu'il veut. Il se met dans un syndicat, dans un autre, dans un parti politique ou dans un autre. On crée des instances de coordination et surtout, on fait de la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire qu'on est en logique. Le politique et le psychique doivent être en cohérence. Il ne doit plus y avoir de guerre des égaux. On doit travailler en autogestion,
très bien,
dans le respect mutuel.
Belle utopie, en tout cas, hein, pour l'instant. Mais en
ça
tout
fait
cas,
du bien. Nous, il faut qu'on ait des utopies. Il faut qu'on ait un imaginaire. Qu'est-ce que c'est, eux, leur imaginaire, à part toujours accumuler et rendre les pauvres de plus en plus pauvres?
En tout cas, vous rappelez que la classe dominante, si elle a aussi bien réussi, c'est parce qu'elle est organisée et soudée.
Exactement.
Donc ça, on peut s'en inspirer à gauche,
Exactement.
Merci beaucoup, Monique Pinson-Charlot. Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique, c'est aux éditions textuelles. Merci d'être venue aujourd'hui au micro de la Terre au Carré.
J'étais très contente.
On termine avec le répondeur et vos messages.
Bonjour Mathieu, bonjour la Terre. C'est Esther de Haute-Loire. Je me dis que ce serait peut-être un peu ironique que finalement, tous ces réseaux, toutes ces technos qu'on utilise malgré tout, malgré nos convictions écologiques, ce serait un peu ironique que toute cette écologie qui est dénigrée soit déclarée hors la loi et puis finisse par se faire modérer et disparaître de cette toile. Ça pourrait arriver. Vu l'état d'esprit des patrons de ces entreprises, je me dis c'est peut-être qu'une question de temps avant qu'ils se décident à se dire que l'écologie, finalement, il faut la modérer, quoi. On verra. À bientôt.
Bonjour, c'est Camille du Puy-de-Dôme. Avec Fashion Révolution France et le Café Flax de Clermont-Ferrand, nous organisons une semaine de manifestation du 22 au 26 avril pour promouvoir une mode éthique et durable. Table ronde, fresques du textile, couture de rue et un défilé engagé auquel j'ai la joie de participer. Venez nombreux, bye la Terre au Carré.
Bonjour, Florent de Volsroche. Merci pour réagir à la discussion sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré. Ce sera un grand plaisir de voir un jour la Terre au Carré présente sur le réseau social Mastodon, qui est une bonne alternative. C'est une fondation qui le gère, donc à but non lucratif et décentralisé aussi, qui évite la mainmise sur ce réseau social par une personne. À bientôt.
Bonjour la Terre au Carré, Laurent de Saint-Étienne. Je dois vous dire que j'apprécie énormément votre émission qui aborde des sujets dont on parle pas ou peu dans les autres médias. Et donc j'en profite aussi pour appuyer les propos d'une de vos auditrices qui s'inquiète du déploiement à marche forcée des panneaux photovoltaïques sous couvert d'écologie dans les espaces naturels dans les Pyrénées-Orientales. Je vous fais donc part de mon inquiétude et de ma colère à ce sujet, car de nombreux projets éoliens et photovoltaïques fleurissent également dans d'autres départements, comme la Lozère et la Haute-Loire, où là encore, sous prétexte de vouloir produire de l'énergie verte, les entreprises proposent de déboiser des hectares de forêt, y compris aux abords de parcs nationaux, comme le parc national des Cévennes, ou couvrir des hectares de champs agricoles ou de panneaux photovoltaïques. La destruction d'espaces naturels, et notamment des forêts qui abritent la vie et dont on sait qu'elles sont aussi des puits de carbone, n'est pas tolérable aujourd'hui et ne peut pas être considéré comme un acte écologique. Il est temps de se questionner sur les bénéfices réels de ces technologies qui nécessitent de grands espaces, beaucoup de matériaux, dans des terres rares et dont on sait qu'elles sont fabriquées à l'autre bout de la planète, notamment en Asie. Vous serait-il possible, dans ce contexte, de faire une émission pour informer la population sur la réalité de cette industrie? Merci la Terre au Carré.
Bonjour, c'est Simon de Berlin. Je vous appelle parce que j'ai écouté hier le podcast de Cyril Dion, de Salut Enchanté. Et il cite David Graeber et David Vingros, et comme je suis un gros fan, je conseille à tous les lecteurs et les lectrices et les auditeurs et les éditrices de lire ce gros pavé. Mais au bout de 50 pages, vous êtes heureux qu'il se silence le livre parce qu'il est tellement trop bien. Allez, bonne journée, merci encore.
Et merci Simon, et puisque ce livre vous rend heureux, je vous en redonne le titre, ça s'appelle « Au commencement était », et c'est l'un des livres les plus ébouriffants que Cyril Dion a lu ces derniers temps, comme il nous le disait mercredi. Merci à Florian Dittre qui était à la technique aujourd'hui.